Salut à tous, on est avec notre voisin de stand de Baleine sous Gravillon et on est avec les gens de Canopée avec un E. Il y a plusieurs assos qui s'appellent Canopée et je suis avec Sylvain Augeron qui est... D'ailleurs, tu es quoi Sylvain Augeron?
On peut dire le fondateur, ouais, effectivement.
Alors Sylvain, alors déjà je suis ravi de t'avoir parce que ça fait longtemps que je te cours après. Tu es un spécialiste des forêts et avec toi j'aimerais qu'on parle de l'état de santé des forêts. Mais peut-être pour commencer de manière un peu soft, gentille, peut-être tu pourrais juste commencer par nous dire d'où vient ce nom. La canopée, c'est quoi pour ceux qui ne sauraient pas?
La canopée, c'est la partie aérienne de la forêt. Si vous êtes un oiseau, en fait, c'est le regard que vous posez sur la forêt. Voilà. Quand vous êtes un humain, souvent, on voit plutôt les troncs d'arbres et on a l'impression que la forêt, ce sont juste ça, alors qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui se passent en l'air.
Ce qui m'intéresserait, Sylvain, c'est que tu me fasses un petit portrait même d'histoire de la forêt française. Peut-être qu'on parte de l'époque où la Gaule et même l'Europe était une immense forêt. Et j'aimerais que tu me fasses un petit déroulé de cette histoire. Il y a eu le charbon qui a été exploité pendant longtemps, ça a été très très déforesté. En gros, que tu nous fasses un résumé de cette histoire depuis les temps immémoriaux.
on va pas revenir forcément très loin, mais déjà ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, à un moment tu parlais de la Gaule, on appelait ça la Gaule chevelue, c'est-à-dire que la France était couverte de forêts. Et puis à un moment, bah, comme toute civilisation, on a eu besoin de cultiver des terres pour se nourrir, et puis surtout d'avoir des besoins en énergie qui commençaient à augmenter. Et c'est là où on a utilisé du bois pour se chauffer, aussi pour l'industrie métallurgique, et on a commencé une grande vague de défrichement. Cette vague de défrichement, en fait, elle a commencé à s'inverser au moment de la révolution industrielle où on a remplacé les énergies fossiles par le bois. Et là, la forêt, au fur et à mesure, elle a gagné du terrain.
La révolution industrielle, c'est vers 1860?
Ouais, voilà, 1860, c'est le début, et puis vraiment, ça arrive en France. Et là, on voit qu'à partir de 1900, on commence à observer que la forêt commence à regagner du terrain. Et puis, encore plus récemment, vient s'ajouter à ce phénomène la déprise agricole, c'est-à-dire de plus en plus de gens qui quittent les campagnes, des exploitations agricoles qui ferment, et une société qui devient plus urbaine. Et quand les champs sont délaissés, la forêt gagne naturellement du terrain. C'est ce qui fait qu'effectivement, si tu regardes ces dernières années, la forêt gagne du terrain.
Est-ce que tu peux nous donner quelques petits chiffres pour qu'on se fasse une idée précise? Quel pourcentage de la France est couverte de forêt aujourd'hui? Plus combien de pourcents ces derniers 10-20 ans?
Alors, aujourd'hui, on a à peu près 30% de la forêt française qui est couverte de forêt.
Alors attends, tu as dit 30% de la surface de la France qui est couverte de forêt.
Ouais,
un petit tiers de la France qui est couverte de forêt.
Oui, et après, ça va varier beaucoup selon les départements. Des départements comme la Corse sont très couverts de forêt, et puis d'autres comme l'Île-de-France sont moins couverts de forêt. La dynamique précise, si tu veux, en termes d'hectares, combien ça gagne chaque année, je pourrais pas te la donner comme ça. C'est juste qu'on voit que là, ça ralentit, voire que ça commence à s'annuler, parce que il y a un autre phénomène qui arrive, c'est l'urbanisation croissante, l'artificialisation des terres. Et aujourd'hui, on va dire qu'on est quasiment à l'équilibre. Mais la surface des forêts, ce que j'explique souvent, c'est que c'est pas le meilleur indicateur. Elle dit pas grand chose de l'état écologique de la forêt. D'abord parce que cette forêt, elle est jeune. Par nature, elle a gagné du terrain sur les terres agricoles, donc elle est jeune. On estime aujourd'hui qu'en moyenne, les forêts françaises ont 60 ans. Voilà, 60 ans. 60 ans, c'est beaucoup pour un humain, c'est très peu pour un arbre. Sous nos latitudes, en fait, si on laissait la forêt vieillir naturellement, on aurait des forêts qui ont 400, 600, 700 ans, 800 ans. C'est le projet du voisin à côté, Francis Allais,
de laisser
vieillir la forêt. Voilà. Donc, on a une forêt qui est très jeune. Et ça, on pourra en parler derrière les conséquences que ça a en termes de biodiversité. Donc, du coup...
Bah, vas-y, maintenant.
On y va maintenant. Il faut savoir qu'en forêt, l'essentiel de la biodiversité, elle est liée au stade âgé. À peu près 30 à 40% des espèces, surtout celles qui sont strictement liées aux forêts, vont avoir besoin de vieux arbres. Je te donne un exemple assez basique. Les pics, par exemple, vont avoir besoin d'arbres de taille assez conséquente pour pouvoir aller faire des trous.
Faire une loge.
Faire une loge. Et une fois que tu as la loge de pic, bah, ça va permettre d'avoir des chouettes chevêchettes qui vont venir s'installer dedans, ou des espèces de chauves-souris qui vont venir effectivement dans ce type d'habitat. Voilà. Et donc, mécaniquement, vu qu'on a une forêt jeune, on a une forêt qui est assez peu riche en biodiversité, sauf quelques exceptions. Et puis l'autre point, c'est sur le carbone. C'est-à-dire que c'est un sujet dont on parle beaucoup. La forêt aujourd'hui, en fait, elle est en pleine croissance. On pourra parler des impacts du changement climatique, mais elle est encore très très loin de son optimum écologique, de sa capacité maximum de stockage de carbone. Et ça, c'est un vrai sujet, c'est que du coup, laisser vieillir les arbres, c'est aussi une chance pour pouvoir absorber du carbone, et on en a vraiment besoin.
D'accord, t'as déroulé beaucoup de choses, ouais. Cette partie sur la biodiversité, etc. Moi, j'ai entendu, on entend souvent dire, notamment, comme tu as dit, le voisin qui est derrière nous, Francis Allais, on entend souvent dire que la forêt française, attention, quelle forêt ? C'est un peu des champs d'arbres, quand on, en caricaturant à peine, dans certaines régions de France que j'aimerais bien que tu nommes. Ouais. J'aimerais aussi que tu parles de cette biodive qui est quasiment nulle, enfin, oui. dans ces champs d'arbres.
Dans ces plantations.
Et ouais. J'aimerais aussi que tu me dises quel pourcentage de la forêt française, c'est des champs d'arbres.
Ouais, alors tu abordes la question des plantations. Et effectivement, aujourd'hui, quand on parle d'extension des forêts, l'essentiel, ça a été de la déprise agricole, mais il y a aussi une partie de cette forêt-là qui a été plantée après la guerre avec le Fonds forestier national. L'État a mis massivement de l'argent pour planter des arbres. Et ça, ces plantations, en réalité, ça a été beaucoup de résineux qui ont été plantés, de l'épicéa qui a été planté un peu partout, du Douglas après. Et on se rend compte que...
C'est le plus grand arbre européen, je le dis au passage. Le plus grand arbre de France, c'est un épicéa, c'est un pin de Douglas, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai fait un truc dans la salamande dessus, qui fait 63 ou 65 mètres, j'ai oublié.
Tu m'apprends quelque chose. J'aurais dit que c'était un sapin, mais peut-être que c'est un Douglas.
Enfin bref, le plus grand arbre du monde, il fait 116 mètres. Ouais. Il s'appelle Hyperion, on le trouve dans le Redwood Park en Californie. Et en Europe, on est loin, loin, loin derrière. Les plus grands arbres sont, si je ne dis pas de bêtises, des pins de Douglas, que ce soit en Suisse, en France. Voilà. Et ceux qui rivalisent, c'est les eucalyptus, qui peuvent atteindre de très, très grandes tailles. Hein. Avant Hyperion, le plus grand arbre du monde, apparemment homologué, faisait, je crois, 130 mètres. Ce qui défie d'ailleurs les lois de la physique, puisque l'arbre peut attirer sa sève jusqu'à 120 mètres selon les lois physiques. Après, ça dépasse un peu l'entendement. Donc, un arbre qui tutoie les 120 mètres, c'est déjà une prouesse purement physique. Pardonne-moi, j'ai fait une petite digression, mais j'aime bien ce genre de pépite. Glisse-en autant que tu veux. On en était à ce qui a été planté.
Alors, je vais d'abord reparler de l'épicéa, après on parlera du Douglas parce que je ne les mets pas dans la même boîte. L'épicéa, c'est un arbre justement qui est indigène, qui fait partie de notre écosystème, sauf que c'est plutôt un arbre de montagne. Et cet arbre de montagne, en fait, on l'a mis en plaine massivement. Et aujourd'hui, on se rend compte que tu as des grands dépérissements. On parle dans l'est de la France, il y a des scolytes qui sont venus ravager tous ces hectares de forêt. Et c'est là où on a ces images impressionnantes de forêts entièrement rasées, entièrement mortes. Et là, c'est sûr que ça nous touche, on se dit, mais la forêt est en train de mourir. Mais pour moi, c'était pas de la forêt là-dessus. C'était justement un arbre de montagne qu'on a mis en plaine, en monoculture. Et avec les changements climatiques qui arrivent, ça vient révéler les fragilités. Et en fait, c'est simplement la nature qui est en train de se réexprimer, de se dire, vous m'avez collé quelque chose qui n'était pas très stable là. Et donc, tout est en train de tomber. Et la vie va revenir derrière. C'est ça qui est intéressant à voir.
Alors tu parlais de différents sacs et de différentes catégories, ça c'était l'épicéa.
Ça c'est la catégorie épicéa, donc l'épicéa meurt aujourd'hui en plaine, c'est normal. On est un peu plus inquiet sur effectivement dans des coins comme le Jura ou même dans les Alpes, où on voit bien que l'épicéa a même à 1100-1200 mètres, il commence à souffrir. Bon, ça c'est une
réalité. À cause du réchauffement, réchauffement ou des scolytes ou des deux?
Le scolyte, il fait partie de l'écosystème, juste c'est un révélateur. C'est un moment où tu as une fragilité, le scolyte il va venir appuyer sur cette fragilité. Donc, le scolyte en lui-même n'est pas un problème, quoi. Par contre, c'est vrai, les conditions sont en train de changer, la forêt est en train de changer. Bon, on reviendra après sur qu'est-ce qu'on peut faire. Mais le Douglas, lui, c'est encore différent. Il y a une histoire différente. Tu parlais tout à l'heure des séquoias de Californie. Le Douglas, il vient aussi de cette zone-là et il a été importé. Donc, c'est une essence exotique. Et donc, on peut ouvrir tout le tiroir du débat sur les essences exotiques. Qui ont eu des fois des conséquences très négatives sur les forêts françaises. Je pense notamment au cerisier tardif qui a été introduit dans les forêts du nord de la France et qui aujourd'hui pose un problème d'invasion biologique dans les forêts comme Compiègne. Le robinier aux acacias aussi a été introduit et on commence à avoir des problèmes, notamment en Gironde, des massifs de plusieurs centaines d'hectares entièrement bloqués par du robinier. Le Douglas, en fait, c'est un arbre qu'on a beaucoup planté en monoculture. Et du coup, ça fait ces forêts très sombres, très peu riches en biodiversité. Mais il a un intérêt, c'est qu'il peut vieillir beaucoup. Tu parlais des arbres qui sont grands, qui vieillissent. Le Douglas, tu peux obtenir vraiment des arbres magnifiques et immenses. Et plus les arbres vont grossir, plus c'est contre-intuitif, mais la lumière va rentrer dans le sous-bois. Parce que le feuillage va permettre à la lumière de passer. Et donc, va se remettre en place une logique naturelle où les feuillus vont venir se réinstaller. Et tu vas pouvoir avoir des forêts mixtes avec beaucoup de bois. Le Douglas, c'est un arbre intéressant.
Dont des arbres à feuilles caduques qui se posent aux résineux.
Exactement. Moi, je l'appelle feuillus, mais c'est des arbres effectivement qui perdent leurs feuilles et qui vont permettre d'enrichir la litière aussi. Et ça, ça marche très bien. Tu vois, on a l'exemple d'une forêt qui, à la fois, va produire du bois, qui va pouvoir être intéressante pour la biodiversité, qui va pouvoir stocker du carbone, parce qu'avec ces très gros arbres, tu vas pouvoir produire des bois de charpente. Et donc, voilà, on peut faire des choses intéressantes avec le Douglas. On peut faire aussi des grosses conneries. Tu me demandais les territoires dans lesquels ça va pas aujourd'hui. Le Morvan, par exemple, c'est le territoire emblématique de lutte où on a été trop loin. En fait, c'était une zone de moyenne montagne dans laquelle on avait majoritairement du feuillu, à 80% et 20% un petit peu de résineux, plutôt des pins sylvestres, des choses comme ça. Et là, en fait, on a rasé des forêts de feuillus pour mettre du Douglas. Et aujourd'hui, tu as des villages où on a presque 90% de Douglas. Et en moyenne, sur le parc, on a basculé, on a franchi la limite, on a plus de 50% de Douglas. Donc là, on a un problème paysager, un problème d'écosystème au niveau du massif. Et ce n'est pas tant la faute du Douglas que la faute de ce que l'homme en a fait, quoi.
Très bien, Sylvain, on va s'arrêter là pour le premier épisode. Tu as consciencieusement rempli ta mission et je te retrouve tel que je t'avais entendu sur plein d'émissions de radio où tu affrontes, je dis ça en riant, je dis ça avec un sourire, nos amis de l'ONF, parce que vous n'avez pas les mêmes vues sur un certain nombre de choses. On va voir ça dans un autre épisode avec toi. Comment on exploite ou surexploite ou exploite mal, je ne sais pas, ou bien la forêt française, ça sera le programme de notre prochain épisode. Merci Sylvain, prends soin de toi, à très vite.
Au revoir.
C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement. Il suffit par exemple d'utiliser le moteur de recherche solidaire Lilo. Ainsi, chacune de vos recherches sur Internet générera des gouttes qui seront reversées au projet de votre choix, comme Baleine sous gravillon par exemple. Vous pouvez par ailleurs vous abonner à nos podcasts, comme d'habitude, partager les liens, devenir adhérent de l'association BSG, ou encore faire un don sur HelloAsso ou sur Tipeee. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. À bientôt.